c'est important de savoir justement qu'est-ce qu'ils font nos politiciens et comment ils nous défendent.
Le Parlement est actif et il a été doublement actif pendant la crise. On va pouvoir le vérifier immédiatement.
Je pense que la gestion de la crise aurait connu une plus-value, aurait été améliorée si le Parlement avait été davantage impliqué.
Pour prendre des décisions politiques, le gouvernement n'a pas la même légitimité démocratique que des personnes qui ont été élues par les citoyens pour prendre leurs responsabilités.
La première. Démocratie en question. Arnaud Reussen.
C'est une question qui s'est posée de plus en plus au fil de la crise sanitaire, en particulier à la suite de la deuxième vague de l'épidémie. Le Parlement s'est-il retrouvé hors jeu ou endormi, laissant tout le champ libre au gouvernement ?
Bon, le message est donc qu'il faut que le Parlement se réveille.
Où est le Parlement ? Je ne sais pas si les députés étaient fatigués avant les vacances de Noël ou s'il faut lancer un avis de recherche pour les retrouver.
Qu'est-ce qu'attend cette présidente de la Chambre des représentants pour un peu montrer les muscles et, pardonnez-moi, faire sa gorille ou son guenon ? Je
sais pas. Donc elle doit convoquer le Parlement pour un débat.
Mais elle a à faire entendre sa voix. Elle doit dire, évidemment, au gouvernement, dites, je ne comprends pas là.
Alors, s'est-il vraiment endormi, ce Parlement ? A-t-il été mis de côté dans la gestion de la crise ? Et plus fondamentalement, le pouvoir législatif joue-t-il encore vraiment son rôle dans notre système politique ? C'est la question que l'on va prendre le temps d'explorer.
Troisième épisode, un Parlement endormi ?
Une précision d'emblée. En Belgique, il n'y a pas un Parlement, il y en a huit. Avec le fédéral, composé du Sénat et de la Chambre, ceux des régions, des communautés et même les assemblées des commissions communautaires. Et pendant la crise, tous ces parlements n'ont pas fonctionné de la même manière, loin de là. Mais celui qu'on a choisi d'aller visiter, c'est le Parlement fédéral, et plus précisément la Chambre des représentants, l'assemblée qui a concentré le plus d'attention et de critiques. Mercredi 15 juin, 11h, direction la rue de Louvain, au cœur de Bruxelles, devant l'un des bâtiments de la Chambre. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va bien, oui. Bienvenue.
Merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir.
Donc, on est devant le Parlement. Et bien, Thieu, en fait, je viens voir si le Parlement est endormi. Parce qu'on a entendu ça beaucoup pendant la crise. Et donc, je trouve que ça vaut la peine de venir vérifier si... Si c'est une réalité sur le terrain.
Le Parlement est actif et il a été doublement actif pendant la crise. On va pouvoir le vérifier immédiatement.
Ok. Bon, on va aller voir comment ça se passe alors sur le terrain. Visiblement, la question d'un Parlement endormi a piqué au vif la présidente de la Chambre, la socialiste Éliane Thieu.
Bonjour madame.
Elle a tenu avec toutes les équipes du Parlement à m'organiser une visite guidée pour me démontrer toute l'activité déployée durant la crise. Donc ici, on est dans une partie nouvelle du bâtiment.
Donc ici, nous sommes dans la partie qui s'appelle le forum, où se déroule l'ensemble des réunions de commission. Et toutes nos salles sont équipées au plan informatique pour permettre les réunions par vidéoconférence.
La secrétaire de commission, Madame Nicole Marquet.
Madame Marquet, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien et vous ?
Oui, ça va. Ben, ça va, ça fait aller. Oui.
Alors, on nous demande si on s'est endormi pendant cette crise.
Ah, je ne crois pas qu'on se soit endormi, non. On a eu énormément de travail. En règle générale, je crois que l'introduction du Zoom a fait que les réunions durent beaucoup plus longtemps qu'avant. Ce sont aussi à des moments qui, traditionnellement, n'étaient pas des moments de commission, donc le lundi, le vendredi. Je pense que tous mes collègues diront que, franchement, la charge de travail avec le Zoom, c'est quand même alourdi. Pour nous, ce n'est pas toujours évident non plus, parce qu'on a des commissions supplémentaires qui se sont ajoutées, la commission Covid.
Donc j'entendais, vous êtes secrétaire de commission. Oui. C'est quoi votre boulot alors concrètement ?
Ben, nous, on est chargé d'assister le président dans l'application du règlement. Donc vous savez, les réunions doivent se faire selon un certain scénario. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Donc nous, on rappelle les règles au président. On organise aussi les auditions, on demande des avis écrits. On fait le rapport des auditions, des discussions de projets et de propositions de loi.
Nicole Marquet fait partie des 570 équivalents temps plein qui travaillent à la Chambre au quotidien, dans les coulisses de l'action visible des 150 députés élus. Des députés qui donc, pour beaucoup, sont devenus des téléparlementaires durant cette crise, absents physiquement dans les commissions, mais paradoxalement plus actifs dans leur travail, selon Éliane Tilleux.
En tout cas, cela permet un horaire plus large, puisqu'on évite complètement le phénomène du déplacement, les bouchons. Donc clairement, les députés sont très tôt en réunion et peuvent rester aussi beaucoup plus tard, étant entendu également que les réunions habituelles qui se déroulent en soirée se déroulent aussi en distanciel. Et donc il suffit de débrancher d'une séance de vidéoconférence pour se rebrancher sur une autre, ça ne dure que quelques secondes. Donc forcément, tous ces temps passés dans les transferts d'une réunion à l'autre, y compris physiquement, sont complètement annulés, ce qui donne un temps de travail complémentaire. Et les députés apparemment se sentent bien à travailler à domicile, puisqu'ils ont clairement utilisé tout ce temps pour questionner les ministres, faire ce qu'on demande à un parlementaire, c'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement et puis être initiateur de législation.
Ceci dit, pour la secrétaire de commission, Nicole Marquet, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, ce parlementarisme par Zoom.
On avait avant des échanges vifs parfois, des textes qui circulaient, que les membres co-signaient, etc. Tout cet aspect-là a un peu disparu, puisque tout le monde intervient à distance. Je trouve que le Zoom, ça peut être très utile pour ce qui est question orale au ministre, parce que là, c'est des débats figés, réponses, questions, répliques, enfin voilà. Mais pour le travail législatif, je trouve que ce serait quand même pas mal de revenir au présentiel. Voilà.
Merci. Bon boulot cet après-midi.
Merci.
Premier élément donc, le basculement en distanciel a généré un surcroît de questions, plus de députés présents, en tout cas virtuellement, plus de questions, moins d'activités parallèles pour les élus et donc plus de temps à consacrer aux travaux de la Chambre. Sur ce plan-là, en tout cas, on ne peut pas dire que le Parlement et ses services se soient endormis.
Donc je propose qu'on aille maintenant au service informatique. Attendez, l'ascenseur, c'est pas là. Hein.
Bonjour.
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 Madame la Présidente.
Bonjour. Nous sommes accompagnés de M. Arnaud Reusen pour la RTBF, qui s'inquiète de savoir si le Parlement a continué à fonctionner pendant la pandémie. Ici, au service informatique, je pense que vous allez rapidement pouvoir lui apporter des éléments de réponse.
Oui, tout à fait. Nous sommes parvenus relativement vite à élaborer un système intégré, traduction simultanée, vote à distance, pour permettre aux députés de participer à des réunions de commission à distance et en présentiel en même temps, et tout en garantissant les mesures de sécurité, confidentialité des processus parlementaires, tout ce qui est prévu par notre règlement et par la législation et la Constitution.
Et donc, tous les députés, par exemple le jeudi, jour de la séance plénière, peuvent voter comme s'ils étaient là. Le Parlement peut continuer à fonctionner, même avec du distanciel ou semi-distanciel, comme si tout le monde était là.
C'est cela.
C'est l'occasion de souligner d'ailleurs que pratiquement toutes ces séances sont désormais visibles via un onglet vidéo, pas toujours super simple à trouver d'ailleurs sur le site du Parlement, mais vous pouvez assister au travail parlementaire, en commission, en plénière, avec possibilité de sélectionner votre langue et donc de disposer de la traduction, comme les députés eux-mêmes, puisque les travaux sont bilingues.
Merci Monsieur le Président, merci de me donner la parole et merci à Madame la Ministre pour son rapport exhaustif.
Je crois que je n'ai jamais lu un rapport aussi accablant, tragiquement inquiétant.
Si on évalue ça comme un danger de terrorisme d'extrême droite, à un moment donné, il faut mettre les moyens pour pouvoir travailler.
J'espère que nous ne vivrons plus jamais un épisode comme nous l'avons connu depuis 2 mois. Et ça, désormais, Madame la Ministre, vous l'avez dit, c'est votre responsabilité. Et je pense que toute la Commission ici, désormais, en est consciente.
Mais revenons à notre visite, qui nous emmène maintenant dans ce qui ressemble au grenier du Palais de la Nation.
On
nous emmener au grenier, là, ou quoi?
Au grenier, ah, pff, il y a encore deux étages en plus, hein. Je crois qu'on ne peut pas, mais il me semble que...
Allez, ok.
Vous emmenez par les chemins secrets.
Dans un service qui paraît presque anachronique à l'heure de l'instantanéité et du digital. Au mur, il y a des étagères allant du sol au plafond, avec des rayonnages interminables qui ploient sous le poids des classeurs remplis de documents papier. Bienvenue au service du compte-rendu intégral, où le directeur nous attend.
Monsieur Stélambre.
Bonjour monsieur.
Je vous présente le journaliste à RTBF.
Arnaud Reussen, bonjour, enchanté. Alors, on est où ici? Expliquez-nous.
Compte-rendu intégral. Donc, le compte-rendu intégral, concrètement, s'occupe de l'intégralité de la plénière. Il fait le compte-rendu de toute la plénière, des réunions de commission quand il y a des questions orales ou des interpellations, et également des auditions dans le cadre de commissions d'enquête ou de commissions spéciales. Donc, concrètement, notre travail à ce niveau-là, au niveau des commissions spéciales, c'était la commission Covid-19, en fait.
Mais donc, ça veut dire que, par exemple, prenons la commission Covid, c'est intéressant, c'est une commission spéciale qui a eu des séances marathon depuis plusieurs mois. Chaque mot qui est prononcé dans une commission comme celle-là va être retranscrit par vos services.
Exactement, tout à fait. Chaque mot, effectivement, vous avez raison. Ce type de réunion fait plus l'objet d'un compte-rendu sous forme de verbatim, en fait.
Traduit ou bien on prend la langue qui a été telle qu'elle a été prononcée?
Uniquement dans la langue de l'orateur. Donc ça, c'est la spécificité du compte-rendu intégral. Le compte-rendu intégral ne reprend les propos des orateurs que dans leur langue.
En tout, quelques 45 personnes travaillent dans ce service à retranscrire les mots des députés, de ceux et de celles qu'ils auditionnent, et ces milliers d'heures de séances font l'objet d'un archivage très rigoureux. Mais pour qui, au fond ? On imagine que peu de citoyens belges se plongent dans ce verbatim parlementaire intégral. C'est pas un peu frustrant, ça ?
Il n'est peut-être pas lu par beaucoup de citoyens belges, mais en tout cas, il y a des gens pour qui c'est très important. Le fait, par exemple, de ne pas encore avoir de version définitive de certaines réunions perturbe un peu certaines personnes, notamment au niveau de la Cour constitutionnelle ou bien de la Cour de cassation, et, ou du moins parfois où on est la version définitive. Donc c'est la preuve que nos documents ont quand même une certaine importance, jouent un rôle dans le système juridique belge, en tout cas.
Parce qu'on va aller voir ce qui a été dit dans les séances, comment a tourné le débat qui a abouti à l'élaboration de tel texte de loi, parfois pour pouvoir l'interpréter par après, par les juridictions.
Et là, ça parle plus précisément des séances plénières. En fait, les séances plénières ont un impact beaucoup plus important que les réunions de commission. En fait.
Un compte rendu utile aussi pour les journalistes, en particulier du côté des agences de presse, quand il s'agit d'aller relire et vérifier ce qui a précisément été dit lors de tel ou tel débat.
Mais donc, dernière question, vous, pendant la crise Covid, vous n'avez pas eu moins de travail?
Ah non, au contraire, on en a eu beaucoup plus. Depuis le mois d'avril de l'année dernière, c'est non-stop, en fait. Je dirais que le travail a beaucoup augmenté depuis la crise Covid, en fait.
Merci.
Je vous en prie.
Merci beaucoup. À vous. Bonne continuation.
Bonne continuation. Hein.
Merci.
Visiblement donc, la Chambre ne s'est pas vraiment endormie durant cette crise. Et pour pas mal de services, la pandémie a même signifié un fameux surcroît de travail. Mais où est le problème alors dénoncé par toute une série de profs de droit et d'acteurs de la société civile ? N'est-ce pas plutôt le fait que le Parlement aurait été mis de côté, tenu à l'écart de l'essentiel des décisions, pendant que les exécutifs tout-puissants prenaient des mesures parfois très fortes ? Réponse d'Éliane Thieu, la présidente de la Chambre.
C'est un jugement qui pose vraiment question, puisque dès l'entame de la crise, en mars dernier, le Parlement a immédiatement pris le relais. Je rappelle que nous étions dans une situation de crise, c'est-à-dire que suite aux élections, aucun gouvernement n'avait pu être formé. Nous étions face à un gouvernement, par ailleurs, minoritaire, qui n'avait donc plus ni la légitimité des urnes, ni la légitimité d'une majorité. Et suite à cela, le Parlement a joué son rôle plein et entier, c'est-à-dire qu'il a légiféré. Et il a aussi contrôlé le gouvernement. Chaque fois qu'il y avait des arrêtés, ils étaient analysés en commission spéciale Covid-19 au Parlement. Donc, entendre dire que le Parlement, à ce moment-là, n'a pas joué son rôle, c'est tout à fait faux. Le Parlement a été là pour pleinement légiférer et contrôler l'action du gouvernement en pleine période de crise sanitaire.
Et du côté de l'opposition, on en pense quoi ?
Juste après, en fait, il y a des réunions maintenant qui ont lieu. J'y vais normalement après si j'ai le temps.
J'ai pris rendez-vous avec François de Smet, président de DEFI, élu pour la première fois député sous cette législature. Lui non plus ne parle pas de Parlement endormi, mais il estime que la Chambre a bien trop été laissée de côté dans la seconde phase de la crise.
Ah bien sûr, il y a un problème de gestion de la crise à partir du mois d'octobre, c'est très clair. Au mois de mars, tout le monde était d'accord que, vu l'urgence, vu que le gouvernement était minoritaire et d'affaires courantes, le recours aux pouvoirs spéciaux se justifiait. À peu près tout le monde était d'accord, sauf les partis extrêmes. Et il est vrai qu'à partir d'octobre, où nous avons eu, en coïncidence d'arriver à la fois la Vivaldi et la deuxième vague, même si je ne lis pas les deux, évidemment, on est arrivé dans une méthodologie où on a un gouvernement qui s'est mis à continuer à gouverner par arrêté ministériel direct. Notamment dans la restriction des libertés, en mettant le Parlement de côté au nom de l'urgence. Et le problème, c'est que l'urgence s'est prolongée. Et que le Parlement, peut-être, a mis quelques semaines, parce que nous avons tous été concentrés sur le sanitaire et parce que on est dans une deuxième vague dont nous ne savions pas si elle allait durer 3 semaines ou 3 mois ou 6 mois, le Parlement a peut-être mis quelques semaines à se rendre compte et à réaliser qu'il fallait réagir face à la spoliation des libertés publiques opérées par le gouvernement. C'est arrivé d'une part par l'action de l'opposition, d'autre part par l'action des académiques, d'une partie de la société civile, notamment les juristes, qui se sont mis à dire « mais là, il serait temps de se réveiller, légiférer, restreindre des libertés publiques par arrêté ministériel, ça ne va pas, il faut que ce soit le fruit d'une loi ».
Une nécessité de respecter le principe de légalité, soulignée aussi d'ailleurs par certaines décisions de justice au fil de la crise. Mais au fond, ça aurait changé quoi ? N'aurions-nous pas eu le même résultat globalement si le Parlement avait été davantage impliqué ? Les disciplines de parti n'auraient-elles pas fait que, de toute façon, les mesures gouvernementales auraient été validées ?
Je pense que la gestion de la crise aurait connu une plus-value, aurait été améliorée si le Parlement avait été davantage impliqué. D'abord, et on l'a prouvé, je pense, un Parlement, c'est mobilisable rapidement. Vous pouvez mobiliser le soir, le week-end, les jours fériés, on est payé pour ça, il n'y a pas de souci. Il y a moyen de convoquer une commission ou la plénière dès que possible. Les textes sur lesquels il faut se baser ne sont pas très compliqués à écrire. Au fond, c'est les arbitrages sur lesquels il lui fallu se prononcer. Et je crois que ça aurait aidé à l'adhésion de la population dans un climat où il faut toujours convaincre une partie de notre population de se faire vacciner. Il faut même convaincre une partie de la population, très, très petite c'est vrai, mais quand même que le virus existe. Nous sommes quand même dans une atmosphère assez, assez étrange en termes de marché cognitif, comme dirait le sociologue Gérald Bronner, où vous avez toutes les thèses et antithèses qui coexistent en même temps. Et le Parlement, il n'est pas juste là pour décider, il fait tampon avec l'opinion publique. Et nous aurions pu relayer un certain nombre, enfin nous l'avons fait à notre manière, mais nous aurions pu de manière plus décisive relayer les préoccupations d'opinion publique et peut-être, à mon avis, enrayer les mouvements de contestation qui ont émergé au printemps. Alors c'est peut-être un vœu pieux, peut-être que ça n'aurait pas marché, peut-être qu'il y aurait eu du mécontentement de toute manière, peut-être qu'il y a des gens que vous ne convainquez jamais, mais j'ai la faiblesse de penser que tout de même la population se serait sentie davantage représentée si les parlementaires, même si nous avons fait de notre mieux singulièrement depuis l'opposition, avaient pu participer à la décision plutôt que de la subir.
Il faut rappeler que le Parlement permet aussi une publicité des débats, démultipliée aujourd'hui grâce à de la vidéo et toutes ces petites capsules d'intervention parlementaire dont les partis abreuvent désormais les réseaux sociaux.
Monsieur le Premier ministre, la situation épidémiologique nous imposait de resserrer la vis pour éviter une saturation de nos hôpitaux, mais aussi un épuisement encore plus important de notre personnel soignant.
Ces indépendants de la culture, du sport, l'événementiel, ils vont se remettre au travail. Il faut naturellement qu'ils soient épaulés. Nous attendons vos propositions en la matière.
Demain, le choix est clair. Est-ce que la Belgique va prendre position pour la levée des brevets ou pas ? Est-ce que la Belgique va faire le choix du profit de certains ? Ou de la santé pour tous.
Enfin, selon la présidente de la Chambre, il y a aussi une plus-value à la différence de tempo entre l'action gouvernementale et l'action parlementaire.
Alors, le gouvernement travaille avec des équipes sous la contrainte du temps, sous la contrainte de l'immédiateté, sous la contrainte de l'obligation de résultat face à la pandémie. Le Parlement, lui, est dans un temps plus long, peut se permettre la réflexion, peut se permettre de stopper, et c'est le cas d'ailleurs, hein, le Parlement, pour l'instant, est en train de stopper la loi pandémie. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je dis simplement que c'est la possibilité offerte aux parlementaires qui sont les représentants des citoyens de contredire et de pouvoir vérifier si l'action est l'action attendue pour avoir le meilleur résultat au bénéfice de nos concitoyens.
La première, démocratie en question, Arnaud Reussen.
Ceci dit, plus fondamentalement, cela fait un moment que la place des parlements pose question dans notre système politique. Et de son poste d'observatrice attentive au CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique, la chercheuse Caroline Sagesser le constate clairement.
Quand on regarde le pourcentage de lois qui ont pour origine un projet de loi donc déposé par le gouvernement ou une proposition initiée par un parlementaire, mais on voit que la balance penche à une écrasante majorité du côté des projets de loi d'initiative gouvernementale. Ça, c'est une tendance lourde qui remonte au début du XXe siècle au moins. Et effectivement, dans le cadre de la démocratie représentative, il nous faut penser à des façons de redonner à l'initiative parlementaire, au travail parlementaire, plus de poids qu'il n'en a aujourd'hui.
Mais en quoi est-ce vraiment un problème ? Parce qu'au fond, le gouvernement est le représentant d'une majorité de députés qui siègent au Parlement, ces mêmes députés qui contrôlent l'action des ministres et peuvent même faire tomber le gouvernement s'il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Pourtant, Caroline Sagesser estime que le poids trop grand pris par l'exécutif par rapport au Parlement pose un problème démocratique.
Je crois qu'on s'éloigne du citoyen. Dans une démocratie, le citoyen doit être le niveau décideur original. Alors, il délègue ce pouvoir de décision à des élus dans une démocratie représentative, mais il ne le délègue pas directement, formellement, aux membres d'un exécutif qui sont dans notre pays choisis, finalement sélectionnés par les présidents de parti. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, pour prendre des décisions politiques, le membre d'un gouvernement, le gouvernement n'a pas la même légitimité démocratique que des personnes qui ont été élus par les citoyens pour prendre leurs responsabilités.
Un problème renforcé encore chez nous par le poids très important des partis et de leurs présidents, au point même de parler de particratie.
Cette particratie donne énormément de pouvoir à des personnages clés de notre système qui ne sont pas ou pas forcément des élus. Je pense aux présidents de parti. On s'est bien rendu compte lors de la constitution du dernier gouvernement, comme d'ailleurs celle des gouvernements qui l'ont précédé, du rôle clé joué par ces personnages qui décident des personnalités qui vont exercer les plus hautes responsabilités en fonction de raisons qui finalement internes à leur parti, d'équilibre interne. C'est finalement un peu le choix du prince qui aurait pu prédire qu'effectivement ce serait Annelies Vreeliet qui serait ministre de l'Intérieur et qui signerait les textes qui ont régi notre vie quotidienne de façon aussi prégnante depuis le mois d'octobre, depuis qu'elle est devenue ministre de l'Intérieur. Il y a effectivement, par cet intermédiaire clé qu'est le parti et le rôle du président de parti, sans doute un déficit de démocratie dans la sélection des personnes qui exercent des responsabilités clés.
Sans compter que ce sont souvent ces mêmes présidents et présidentes de partis qui, lors d'interminables négociations de formation gouvernementale, bétonnent des accords très détaillés, sorte de bible de l'action de la majorité pour la législature, accords dont il est extrêmement difficile de sortir ensuite, ce qui forcément bride aussi l'action des députés au quotidien. Retournons poser la question à un président de parti, justement, François de Smet, président du plus petit parti représenté au Parlement, Défi, dans l'opposition au fédéral.
Ce que je vis comme très enfermant, c'est le fait qu'il soit très difficile de faire bouger un parti de la majorité hors d'un accord de gouvernement. Ça, c'est vrai que c'est une sorte de contrat qui a l'air de valoir en lettres d'or plus que les initiatives des parlementaires. Et de fait, on le voit régulièrement, par exemple aujourd'hui sur la régularisation des sans-papiers avec pourtant des partis progressistes au sein d'un Vivaldi, on voit que les uns et les autres sont enfermés par un accord de gouvernement au-delà de leurs propres convictions. C'est extrêmement dur à vivre sans doute pour eux et ça l'est sans doute pour toute personne dans une majorité. Là où je dirais que des choses évoluent, c'est que le bienfait des réseaux sociaux, sont détestables à plusieurs égards, mais ils apportent un bienfait en termes de transparence. Les parlementaires et les partis sont, me semble, comptables davantage qu'avant sur ce qu'ils font au jour le jour.
Mais sur le pouvoir des présidents de partis proprement dit, François de Smet, qui expérimente la fonction depuis peu, précise ceci.
Président de parti, c'est un job où vous pouvez vous faire traiter le lundi de dictateur et le mardi de chiffre-molle, en général par les mêmes, parce que le juste équilibre est peut-être entre les deux. Vous avez un pouvoir assez fort à des moments clés et vous n'avez pas la maîtrise totale de vos troupes le reste du temps. Et ce n'est pas plus mal parce que les partis sont des petites démocraties internes, avec en général, et ça a beaucoup changé, je crois dans un sens assez positif, les partis sont devenus des organisations plus démocratiques qu'avant. Il y a une époque, je m'en souviens, où les présidents dans certains grands partis n'étaient même pas élus au suffrage universel des membres, mais par une sorte de petit politburo et d'entre-soi. Là, quand même, quasiment dans tous les partis, sauf peut-être au PTB, il y a une élection au suffrage universel des membres. Il y a des instances qui cadrent ce que peuvent faire les instances dirigeantes, qui peuvent même les rappeler à l'ordre. Ça s'est vu à peu près récemment dans des grands partis. Et ça, c'est très bien. Donc l'exigence des troupes, elle est plus forte qu'avant. Sans doute parce que la transparence qui anime la démocratie parlementaire, elle, par la grâce des réseaux sociaux et des évolutions récentes, elle touche aussi l'intérieur des partis.
Reste que malgré cette transparence et ce contrôle permanent permis par les nouveaux médias, la crise de confiance entre les citoyens et les élus n'a fait que grandir dans les baromètres au fil des ans. Face à ce fossé préoccupant, cela fait quelques années maintenant que fleurissent des initiatives de démocratie participative dans les parlements eux-mêmes. C'est le cas à Bruxelles, où il y a quelques semaines, le président du Parlement bruxellois, Rachid Madrane, n'était pas peu fier d'inaugurer une expérience pionnière.
Mesdames, messieurs, dames und herren, on va vivre un moment important dans l'histoire de notre Parlement, puisque nous allons ouvrir ensemble les travaux de la toute première commission délibérative. Pour la première fois dans l'histoire de notre région, mais dans l'histoire de notre pays, et peut-être plus, parce que j'entends, on me dit que c'est une première mondiale, pour la première fois, des citoyens et des citoyennes tirés au sort sont donc associés au travail parlementaire. Il y a parmi vous, dans l'autre salle, des parlementaires et des citoyens tirés au sort.
On parle bien de commissions délibératives et non décisionnelles, qui rassemblent des citoyens et des politiques pour formuler des recommandations. Elles sont constituées chaque fois autour d'un thème, et pour la première, l'enjeu était le déploiement de la technologie 5G à Bruxelles. Pour en délibérer 15 députés et 45 citoyennes et citoyens tirés au sort sur base d'un échantillonnage pour respecter au mieux la diversité de la population bruxelloise, ils se sont retrouvés plusieurs week-ends d'affilée, d'abord en petits groupes pour écouter des experts.
Bienvenue, nous avons deux experts super avec nous qui vont juste vous parler. Et ils vont pas employer de PowerPoint, so is there a key PowerPoint?
Puis pour délibérer entre eux de recommandations.
Est-ce que ça sera reparti?
Oui.
Par rapport aux endroits denses,
oui,
pas denses,
voilà.
Souterrains, pas souterrains.
Oui, voilà.
Donc là, on est plutôt c'était parce qu'il paraît un peu toujours en une place, quoi.
Oui, oui, pour le place, la place.
Ça, alors,
mais allons nous immerger un peu dans cette expérience parlementaire citoyenne.
Bonjour.
Lorsque je pousse la porte du Parlement bruxellois, le samedi 29 mai en matinée, on en est déjà au stade où les propositions de recommandations ont été formalisées et où l'on en débat en plénière.
Voilà, j'ai l'impression qu'on peut y aller. Hein ?
Oui.
Formidable. Eh bien, bonjour à toutes et tous et vraiment merci pour votre présence à cette nouvelle séance de notre commission délibérative. Le temps aujourd'hui se prêtait à la promenade et à la balade dans les parcs et dans les forêts, mais vous avez fait l'effort d'être parmi nous ce matin et merci pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée importante puisqu'on va examiner les propositions de recommandations qui vous ont été transmises et on va procéder au vote de ces recommandations.
Les travaux se déroulent dans deux salles, en duplex vidéo, de manière à pouvoir tenir cette séance en présentiel malgré le contexte sanitaire. Il s'agit d'examiner des propositions de recommandations, d'y apporter d'éventuels amendements et ensuite de les voter une à une. Une procédure un peu technique et pas toujours simple à comprendre pour les non-initiés.
À 27, c'était juste pour
oui,
dire
attendez,
que...
attendez. Donc attendez. Excusez-moi, Louise, pour que tout le monde puisse suivre. Donc, on avait ouvert la discussion sur la 28, mais on a une personne qui a souhaité revenir sur la 27.
Oui.
Et j'ai accepté parce qu'on avait été un petit peu vite.
La séance à laquelle j'assiste confronte assez souvent des députés habitués du travail législatif et des citoyens qui, eux, et c'est bien normal, ont parfois un peu de mal à appréhender leur marge d'action réelle.
Excusez-moi.
Oui, allez là.
Comme sur cette résolution qui propose de promouvoir le recyclage des smartphones au niveau européen.
Est-ce qu'on ne peut pas changer ça en disant tout simplement que s'il y a une nouvelle génération d'appareils qui vient sur Bruxelles, on ne va parler que de la Belgique, d'essayer de trouver des solutions plutôt pour le recyclage en Belgique même. On n'est pas obligé d'aller, je veux dire, chez le voisin d'à côté pour aller jeter nos poubelles. Hein.
Oui, mais alors là, je ne suis pas contre, mais je pense que ce n'était pas l'esprit de ce qui était ressorti. Et je pense que si on dit en Europe, c'est parce qu'actuellement, ça se fait sur d'autres territoires mondiaux. Mais
je veux dire, c'est que si c'est une recommandation que tout le monde vote et qu'elle passe, si elle sert à rien, je veux dire.
Et de manière générale, les recommandations partent dans des domaines très variés. Limiter les normes d'émission, assurer une meilleure éducation au numérique, déployer la fibre optique, organiser la formation gratuite des travailleurs qui perdent leur emploi à cause des évolutions technologiques, etc., etc. En tout, 43 recommandations, dont certaines dépassent très largement les compétences du Parlement bruxellois. Je profite d'une pause, après les travaux, pour aller faire un premier bilan avec quelques participants.
Donc, je m'appelle Elofadi Fadila, j'ai été tirée au sort et je travaille dans la restauration, donc dans la cuisine collective.
Et donc, comment est-ce que vous êtes retrouvée ici en fait ?
Avec le tirage au sort, j'ai reçu un courrier à la maison qui demandait de s'inscrire. Et après, à partir des 10 000 personnes, ils ont refait un tirage au sort et j'étais tirée au sort.
Et pourquoi vous êtes dit que ça valait la peine de venir participer à ça ?
Au départ, vraiment, honnêtement, c'est parce que j'étais en chômage Covid et que je cherche tout le temps à m'occuper. Donc, au départ, c'était juste pour par curiosité, on va dire. Voilà.
Fadila s'est vraiment impliqué pleinement dans le processus et dans les différents ateliers organisés pour comprendre les enjeux.
Le deuxième week-end, ils ont fait appel à des experts, ils ont fait des petits groupes, et alors on a fait comme un genre de jeu où on allait chaque fois voir des experts qui étaient pour et contre, et on passait de groupe, voilà, et on pouvait poser nos questions. C'est ça qui a fait qu'on s'est intéressé. Je pense d'ailleurs tout le monde.
Et donc, et après, le résultat de ça, c'est quoi ? C'est que vous avez fait des propositions vous-même, par exemple ? Il y a des choses que vous avez suggérées, proposées, qui se retrouvent dans les propositions de recommandation ?
Oui, tout à fait. Moi, j'étais plus intéressée par tout ce qui était, on va dire, citoyen. Donc, ça veut dire les factures, comment on va déployer la 5G, à qui ça va profiter, tout ça. Donc, c'était ça plus qui m'intéressait.
Et qu'est-ce que vous avez pensé, par contre, de la séance d'aujourd'hui, qui était une séance, parce que j'y ai assisté moi aussi, quand même assez technique, où il fallait passer en revue les textes, puis les propositions d'amendement des uns et des autres, avec les parlementaires, les dynamiques de jeu, de majorité, d'opposition. Comment vous avez vécu cette séance d'aujourd'hui ?
Moi, je l'ai vécu très bien, mais j'ai un petit bémol. C'est qu'on est ici pour comment amener la 5G donc, sur Bruxelles, donc elle vient d'office sur Bruxelles. Et on est avec des recommandations qui peuvent intéresser l'Europe. Et je trouve que ce n'était pas notre rôle. On devait plus s'intéresser plutôt aux recommandations qui a trait sur Bruxelles, je pense.
Je vous ai senti parfois d'ailleurs un tout petit peu, pas agacé, mais de se dire, est-ce qu'on est sûr de la façon dont on est en train de travailler que ma voix va être entendue ?
En fait, ce qui m'a agacé, c'est que de savoir quelles sont les recommandations qui sont possibles juridiquement, parce qu'apparemment, il y a des choses qui sont faisables et pas faisables. Qu'est-ce qui va vraiment être applicable ? C'est ça qui m'embêtait. Et on ne fait pas la différence, en fait.
C'est, à mon avis, un des problèmes majeurs du processus. Pas mal de recommandations risquent de ne pas vraiment trouver d'écho, car elles concernent d'autres niveaux de pouvoir, ou bien parce qu'elles sont tellement larges qu'elles ont peu de chances de se matérialiser concrètement. C'est d'ailleurs un des éléments pointés par la députée Anne Barzin qui, du côté des libéraux, dans l'opposition à la région, regrette que ce thème de la 5G ait été suggéré par les politiques et ne soit pas venu directement d'une proposition citoyenne concrète.
Mais il est clair que voilà, nous, au MR, on avait d'emblée dit que la 5G est un sujet extrêmement technique et c'était compliqué en 4 jours, hein, en 4 jours d'arriver à des recommandations très précises. C'est vraiment un écueil de base. Et c'est vrai qu'ici, beaucoup de citoyens nous indiquent qu'il est important de pouvoir déposer des recommandations qui ont une capacité d'être réalisées. Et donc, quand on dit effectivement que c'est du niveau fédéral, que c'est du niveau européen. Malheureusement, ça ne sera pas dans la compétence régionale. Et donc, c'est vrai que dès le début, on aurait dû aussi, dans la concrétisation, pouvoir indiquer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Je pense que ça fait partie des enseignements que nous devons tirer. Pour le reste, c'est vrai qu'échanger avec les citoyens, c'est extrêmement enrichissant. Beaucoup ont fait beaucoup d'efforts. Et donc, au niveau humain, ça reste quelque chose de passionnant.
Autre question qui me taraude aussi en observant le processus, c'est que, certes, l'expérience est très riche pour les 45 citoyens qui ont pu siéger. Ils étaient d'ailleurs globalement très satisfaits d'avoir pu participer et découvrir ainsi les coulisses de l'action parlementaire. Mais y a-t-il pour autant une revitalisation de la démocratie au bénéfice de tous ? C'est en tout cas le pari assumé par le président de cette première commission, l'écologiste Tristan Roberti.
Mais c'est-à-dire que dans les parlements, on va vite être dans une logique un peu particratique et majorité contre opposition. Et donc, quand un parlementaire de l'opposition vient avec un sujet qui n'intéresse pas les autres, il va vite mettre de côté. On va lui permettre de présenter son sujet, mais personne ne va y réagir, personne ne va y donner d'intérêt. Quand ça vient d'un citoyen, c'est un peu plus délicat de se comporter comme ça. Quand ça vient d'un citoyen, ben c'est clair qu'il y a peut-être d'une certaine manière plus de respect, ou on va prendre plus de temps pour creuser la question, pour reformuler la question posée par les citoyens, pour lui permettre de trouver des réponses. Donc oui, je pense que ça peut avoir un intérêt de ce point de vue-là.
L'expérience sera à évaluer au terme aussi de commissions suivantes, dont certaines se baseront sur des propositions directement formulées par un citoyen ou par une citoyenne et qui ont obtenu 1000 signatures de soutien. Mais il y a très certainement des écueils. Le risque de décevoir des attentes si les recommandations ne sont pas suivies d'effets clairs, ce qui pourrait faire pire que mieux. Le risque aussi de souligner la complexité des processus décisionnels plutôt que de rapprocher le citoyen de la politique. Ce qui paraît clair en tout cas, c'est que ces commissions seules ne suffiront pas à réduire le fossé qui s'est creusé entre les citoyens et leurs représentants. Pour tous les experts et les élus que nous avons croisés, la solution à mettre en œuvre est complexe et forcément multiple. Pour la politologue Caroline Sagesser, il faudrait, pourquoi pas, oser la démocratie directe.
Je dois avouer que je suis très partiale sur ce sujet parce que j'ai une double nationalité. Je suis également suisse et donc je ne peux pas m'empêcher de penser que la démocratie directe a d'énormes avantages. Non pas qu'elle débouche forcément sur des décisions beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus légitimes. Personne ne dira que la majorité a toujours raison. Par contre, elle a une vertu énorme qui est effectivement de réconcilier, ou en l'occurrence de maintenir un lien étroit entre les citoyens et le politique, parce qu'ils ont vraiment l'impression de peser sur la décision politique. Pour prendre l'exemple de cette crise corona, le Parlement suisse a voté une loi pandémie en septembre 2020. Il y a un groupe de citoyens qui ont voulu lancer un recours, donc une initiative contre cette loi, qui ont réuni le nombre de signatures nécessaires à la mise aux votations de ce texte. Et voilà, le peuple suisse a voté le 13 juin. Il a validé la loi, une majorité pas très large, mais il l'a validée. Le débat est clos. Le citoyen s'est exprimé. Ça légitimise quelque part, ça légitime plutôt l'action gouvernementale, parce qu'il y a ce contrôle qui peut être à tout moment rendu aux citoyens, et ça donne également aux citoyens le sentiment de vraiment participer, de peser sur la décision politique, et ça lui donne également une quasi-obligation de se maintenir informé du sujet des débats.
On s'était d'ailleurs penché sur ce système dans notre première saison de Démocratie en question, et l'épisode qui explorait la démocratie suisse est toujours disponible au téléchargement. L'une des pistes serait aussi d'avoir des parlements plus représentatifs de la diversité de la société. Aujourd'hui, la plupart des députés sont issus d'un même milieu social, ce qui n'est pas sans conséquence d'ailleurs pour les rares élus sans diplôme universitaire qui se sont frayés un chemin vers le Parlement, comme Maria Windevogel, ex-syndicaliste et aujourd'hui députée PTB.
C'est presque tous des gens qui ont beaucoup étudié et des fois je me sentais pas à l'aise dans cet environnement. Des fois, il y avait des conversations où je trouvais difficile à suivre, simplement parce que les mots sont trop compliqués. Je pense que c'est nous on est quatre et moi je suis fort soutenue par mon collègue qui m'aide pour faire des questions quand ça va pas. Mais je trouve que le Parlement n'a pas fait J'ai même eu déjà deux fois qu'il y a un parlementaire qui rigolait avec moi. C'était quelqu'un de l'NVA. Ça m'a choqué. Hein.
Et pour justement éviter une forme de professionnalisation politique et le risque d'une caste déconnectée des citoyens, François de Smet formule cette suggestion.
C'est d'amener beaucoup plus de gens à faire de la politique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça ne devrait pas être un métier. Ça devrait être une fonction qu'on occupe une partie de sa vie, si possible en ayant fait quelque chose avant, et si possible en ayant l'idée de faire autre chose de sa vie après, un peu comme un service civil que l'on rend. Et que ce ne soit pas une fonction, un métier dans lequel vous restez 20, 25, 30, 40 ans de votre vie, parce que là, je crois qu'il y a une déconnexion évidente. On ne voit pas assez d'ouvriers, on ne voit pas assez d'enseignants, on ne voit pas assez de cadres commerciaux, on ne voit pas assez de toute une série de métiers. Moi, je trouve qu'une manière de revivifier la démocratie serait de faire en sorte que les mandats soient limités, mais qu'il soit beaucoup plus facile de faire des allées et venues et d'intéresser toute une série de profils différents, et que ce ne soit pas vu comme quelque chose d'infamant ou de radioactif d'avoir fait de la politique, et qu'on ne vous regarde pas de travers une fois que vous en sortez. Et ce serait plus facile si des mécanismes existaient pour octroyer des congés politiques qui permettent de faire cela et qui permettent de faire des allées et retours et de permettre de faire en sorte que quelqu'un qui fasse de la politique ne soit pas grillé à tout jamais dans sa vie d'après s'il veut en sortir.
S'il y avait un remède miracle pour recréer la confiance et revitaliser nos démocraties en crise, ça se saurait. La crise est presque structurellement inscrite dans la démocratie et les attentes contradictoires qu'elle porte. Ce qui impose de réinventer sans cesse les processus au fil des évolutions de nos sociétés, et on y reviendra encore forcément dans tous les prochains épisodes de cette série. C'était Démocratie en question, une série de La Première avec le soutien du Fonds pour le journalisme, à la réalisation Jonathan Remy. Notre prochain épisode nous emmènera sur les traces du lobby pharmaceutique. Les big pharma sont-ils plus forts que les États? C'est la question que l'on explorera. Tous les épisodes de cette série sont à retrouver sur Ovio et sur toutes les plateformes de téléchargement. Et si vous souhaitez réagir, commenter, mais aussi faire des suggestions pour revitaliser la démocratie, n'hésitez pas, une adresse est ouverte spécialement pour ça, démocratie@rtbf.be, démocratie au singulier et sans accent, @rtbf.be.